Rédemption, émission numéro 10, Exode, la mission des rachetés. Je crois que Wright nous indique la bonne direction pour appliquer l'Exode lorsqu'il dit « Une rédemption en forme d'Exode exige une mission en forme d'Exode ». Et cela signifie que notre engagement envers la mission doit démontrer la même grande préoccupation globale pour les besoins humains que Dieu a démontré dans ce qu'il a fait pour Israël. Notre mission doit être dérivée de la mission de Dieu, mission 275 à 76, italique dans l'original. Nous avons mentionné sous le premier point que Dieu délivrerait son peuple, 1, de l'esclavage sociopolitique et économique et, 2, de l'esclavage spirituel. Je soutiens que nous devons nous aussi partager ces mêmes préoccupations. Nous devons répondre aux besoins physiques et spirituels urgents partout dans le monde. Laissez-nous répondre aux besoins physiques urgents alors que nous réfléchissons à l'application de la mission dans Exodus. Permettez-moi de m'appuyer à nouveau sur certaines idées de Wright. Il faut éviter d'avoir une application spiritualisée uniquement dans l'Exode, c'est-à-dire une évangélisation sans action sociale, c'est-à-dire en mettant tellement l'accent sur la liberté spirituelle dans l'Exode que nous négligeons les besoins physiques réels. Nous ne pouvons pas nous permettre de passer à côté de la dimension sociopolitique économique d'Exodus. N'oubliez pas qu'il s'agissait de vraies personnes asservies par un véritable dirigeant, et qu'elles ne pouvaient pas adorer lorsqu'elles trimbalaient de la boue toute la journée, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, des millions de jeunes filles sont réduites en esclavage et violées plusieurs fois par jour dans un but lucratif pour satisfaire les désirs des méchants. Cette réalité est écœurante et exaspérante, et elle exige une réponse de la part du peuple de Dieu. Même si la proclamation reste la tâche la plus importante de l'Église, cela ne signifie pas que les citoyens du royaume doivent négliger les actes pratiques de miséricorde et de justice. De plus, dans certains cas, les gens ne peuvent pas entendre notre message tant qu'ils ne sont pas libérés de l'injustice physique. Laissez-moi vous demander, les filles qui sont victimes d'abus sexuels plusieurs fois par jour peuvent-elles entendre la bonne nouvelle? Malheureusement, ils ne le peuvent pas. Ne devrions-nous pas lutter pour les libérer, ainsi que les autres victimes de l'injustice, afin qu'ils puissent entendre notre message? Je crois que l'impulsion qui pousse les gens à aller vers les peuples non atteints pour partager l'Évangile est la même impulsion qui les appelle à prendre soin des victimes de l'injustice, l'amour. La justice, c'est l'amour rendu public. Si nous aimons vraiment les gens, nous leur annoncerons l'Évangile tout en prenant soin de leurs besoins physiques. De plus, les lieux d'injustice les plus sombres sont souvent ceux-là même qui ont peu de témoignages de l'Évangile. Si nous allons avec amour dans les endroits sombres, nous aurons l'occasion d'apporter la liberté, à la fois physique et spirituelle. 18.5 points nous aident à nous rappeler de garder l'accent sur le ministère de justice et de miséricorde ici dans l'Exode. Premièrement, Israël avait besoin de liberté non pas à cause de son péché, mais à cause du péché de l'Égypte. Pour être clair, Israël était pécheur, terriblement pécheur. Mais l'Exode et l'exil ultérieur d'Israël présentent des différences. Dieu a envoyé Israël en exil à Babylone à cause de leur péché. Mais rien n'indique que les souffrances d'Israël en Égypte étaient le jugement de Dieu sur le péché, Wright, mission, page 278. Dans l'Exode, une force extérieure les a opprimés. Par conséquent, être délivré de l'esclavage de notre péché n'est pas exactement la même chose qu'Israël être délivré de son esclavage. Nous devrions présenter cette demande, mais ce n'est pas la seule que nous puissions présenter. L'Exode montre la victoire de Dieu sur les puissances extérieures d'injustice, de violence et de mort. Nous ne pouvons pas manquer cela. Deuxièmement, le Nouveau Testament ne remplace pas les aspects physiques de l'Exode par ses aspects spirituels. Il étend les aspects physiques et les aspects spirituels. Le plus grand commandement et la grande mission englobent les deux priorités, le ministère en parole et en acte. Troisièmement, Dieu n'a pas changé. Nous ne devrions pas commettre l'erreur de penser que Dieu se préoccupait alors d'une véritable injustice, mais pas aujourd'hui. Pensez au nombre de lois relatives à la justice qui ont été données et au nombre de psaumes qui en parlent. Rappelez-vous que dans son enseignement, Jésus a insulté les pharisiens qui avaient fait leur sacrifice religieux mais niaient les questions les plus importantes de miséricorde et de justice, MT 23 2.23, confère MT 25 2.35 à 36, Jacques 1 2.27. De plus, l'amour et la justice de Dieu étaient pleinement visibles à la croix, Rome 3, 21 à 26. La justice de Dieu sera également magnifiée à la fin de toutes choses, Apocalypse 20, 11 à 15. Dieu est juste et son peuple doit l'imiter. Quatrièmement, il est faux de penser que ce que Dieu a fait pour Israël n'est pas ce qu'il veut ou fera pour les autres. Pensez, oui, Dieu a libéré Israël de l'oppression, mais c'était Israël, c'est passé à côté du but de Dieu en choisissant Israël en premier lieu, être une bénédiction pour les nations. Et il les a choisis et agi en leur faveur afin que les gens sachent à quoi ils ressemblent. Même si Dieu n'a pas libéré tout le monde au Proche-Orient, cela ne signifie pas qu'ils n'étaient pas au courant de leur existence ou qu'ils n'étaient pas préoccupés par l'oppression ailleurs. Dieu s'oppose toujours aux oppresseurs violents. Pour nous, Israël constitue un modèle quant à la manière dont Dieu œuvre dans le monde. De plus, l'Ancien Testament montre que Dieu agit en faveur de ceux qui crient sous l'oppression. Le psaume 33 va du caractère d'exode de Dieu à la revendication universelle de son amour, V5, et au fait que toute la vie humaine est sous son regard, V13 à 15. Le psaume 145 dit quelque chose de similaire, « Sa compassion repose sur tout ce qu'il a fait », V9. Étonnamment, dans 19 Ésaïe 19, même l'Égypte elle-même est programmée pour une bénédiction rédemptrice, lorsqu'ils crieront à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs, il leur enverra un sauveur et un guide, et il les délivrera. L'Égypte connaîtra l'Éternel en ce jour. Il entendra leurs prières et les guérira, Ésaïe 19, 20 à 22. Israël est donc distinct, mais la libération d'Israël par Dieu ne se limite pas à eux. Au lieu de cela, Israël sert d'exemple de la miséricorde et de la justice de Dieu aux yeux de tous. Une dernière raison pour laquelle nous ne devrions pas manquer l'appel à l'action sociale est que les sages-femmes sont honorées pour leur acte. Ils nous servent d'exemple à suivre pour protéger les personnes faibles et vulnérables. Nous avons besoin d'une armée de personnes comme ces dames pour prendre soin des orphelins, des veuves, des enfants à naître et des victimes de l'injustice. Prenons soin des besoins spirituels urgents. La deuxième erreur à éviter dans l'application de l'Exode est de se limiter à la seule situation socio-politique économique, c'est-à-dire une action sociale sans évangélisation, c'est-à-dire d'être tellement concentré sur sa dimension sociale que la dimension spirituelle s'en perd. Certaines formes de théologie de la libération adoptent ce point de vue. Ils se consacrent uniquement à la question de la libération de ceux qui sont opprimés. De cette approche socialisée est le problème opposé de l'approche spiritualisée. L'approche socialisée ignore le but spirituel de l'Exode et ne tient pas compte du lien entre l'Exode et la croix dans le Nouveau Testament et l'œuvre salvatrice de Jésus. Rappelez-vous, Dieu voulait libérer Israël afin qu'ils puissent l'adorer. En tant que sacerdoce royal, ils ont été formés, comme Adam, le prêtre du jardin, pour adorer Dieu. Une liberté spirituelle était au cœur de leur libération physique. Le problème le plus profond d'Israël concernait l'Égypte à l'intérieur d'eux, une tendance persistante à retourner à leur condition misérable d'avant. Après qu'Israël ait été libéré, ils sont tombés dans le péché dans leur cœur, l'idolâtrie, et ont été envoyés en exil. Nous devrions donc vouloir libérer les gens de l'oppression physique, mais en fin de compte, nous devrions travailler à les libérer spirituellement. Nous avons donc besoin d'un modèle de mission intégrateur. C'est-à-dire un modèle missionnaire équilibré et entièrement biblique. Le modèle intégrateur prend en compte la même grande totalité de préoccupations que Dieu a pour les gens. Faisons de l'évangélisation pour voir les gens sauvés de l'esclavage, du péché et de la mort. Prenons également soin des opprimés en luttant pour la justice pour les esclaves physiques et en faisant preuve de miséricorde envers ceux qui sont dans le besoin. Pour résumer, on pourrait dire que les chrétiens devraient se soucier de soulager les deux types de souffrances humaines, la souffrance temporelle et la souffrance éternelle, et surtout la souffrance éternelle. Bienvenue dans Exode. Que Dieu nous aide à mieux comprendre notre rédemption et qu'il nous aide à mieux comprendre notre mission.